Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment le choc géopolitique frontal, un véritable clash entre la Chine et l'Occident, comprenait surtout les États-Unis, comment ce choc se traduit en termes intellectuels par une guerre des antiquités qui se déroule principalement entre universitaires chinois et américains. C'est en effet depuis la période d'ouverture et de réforme, la fameuse Kaikokraifang, initiée par Deng Xiaoping, pour marquer la sortie du maoïsme après la fin de la révolution culturelle, donc qui s'est terminée officiellement en 1976. Donc c'est depuis cette période que s'est ouverte une véritable autoroute entre la Chine et les États-Unis, où vous avez donc un flux constant et croissant d'étudiants et d'universitaires chinois vers les États-Unis. Donc c'est une autoroute qui ne va pas exactement à sens unique, mais presque, dont je parlais déjà dans ma leçon inaugurale en 2008. C'est un flux qui va essentiellement de Chine vers les États-Unis, où beaucoup donc d'étudiants et d'universitaires chinois ont choisi de rester. Alors avant la pandémie de Covid-19, le flux était tel que certaines universités américaines ont dû établir des quotas d'étudiants chinois qui, sans ces quotas, risquaient de truster toutes les places. C'est le cas de certaines universités californiennes, où donc il a fallu établir ce quota, parce que sinon, on n'aurait eu que des étudiants chinois dans ces universités. Alors, dans ce contexte, nous nous sommes intéressés en particulier au parcours et à la carrière universitaire de ce professeur Pai Tongdong. Donc, je rappelle, né en 1970, formé à Pékin en physique nucléaire, puis converti donc à la philosophie politique. Alors, ce professeur a continué sa formation doctorale aux États-Unis, justement à Boston, puis a enseigné plusieurs années à l'université Xavier, université jésuite de Cincinnati, avant de décider de revenir en 2010 en Chine. Donc lui est un des assez rares, finalement, universitaires qui ont décidé de reprendre l'autoroute en sens inverse. Donc depuis lors, il est professeur au département de philosophie de l'université Fudan de Shanghai. Donc, dans le cadre de notre cycle sur la civilisation, nous avions vu que Pai Tongdong se montre critique vis-à-vis de la revendication de la Chine comme la civilisation la plus ancienne et la seule continue au monde, mais que d'un autre côté, il défend la vision d'un monde en compétition où c'est le meilleur qui doit gagner. Or, Pai Tongdong est convaincu que la Chine a justement quelque chose de mieux à proposer que la démocratie libérale prédominante en Occident, c'est-à-dire avant tout donc aux États-Unis et accessoirement en Europe. Donc c'est à partir de ce point de vue que Pai Tongdong s'en prend au verdict de Montesquieu, ce fameux verdict sur la Chine qualifié de despotique, verdict qui, selon Pai, premièrement est erroné et deuxièmement est venue s'imposer à la Chine au moment où elle succombait à la colonisation occidentale et japonaise à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc ici, Patong-dong semble reprendre à son compte le récit, le fameux récit sur le siècle des humiliations entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, où enfin donc le Parti communiste chinois en 1949 est venu délivrer donc la Chine de son joug colonial. Alors, ce verdict de Montesquieu, résumé dans la fameuse petite phrase que vous connaissez maintenant par cœur, a fait couler beaucoup d'encre en Chine depuis plus d'un siècle et encore aujourd'hui. Alors d'abord sur le mode de l'appropriation entre la fin du 19e et la première moitié du 20e, c'est-à-dire que dans ce premier temps d'appropriation, vous avez des intellectuels chinois modernes qui embrassent tous, à qui mieux la thèse d'une Chine impériale despotique, pour mieux justement la rejeter. Et ensuite, beaucoup plus récemment, on est passé au mode du rejet, surtout depuis la dernière décennie, un rejet qui conteste justement ce verdict du fait qu'il est d'origine européenne, et c'est une contestation qui revendique haut et fort la spécificité de la trajectoire historique de la Chine, spécificité qui continue à s'affirmer aujourd'hui. Vous connaissez le refrain donc du socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors, pour sa part, Pai Tongdong ne nie pas que la Chine puisse devenir despotique, ça c'est quelque chose de tout à fait possible, mais pour lui, il s'agit clairement d'un avatar moderne dont la cause est extérieure à la Chine. Alors, nous avons vu la dernière fois que selon lui, la faute est à Montesquieu, et ensuite au Japon, qui a servi de relais justement au verdict de Montesquieu. Alors selon Pai, les Japonais avaient intérêt à présenter la Chine comme despotique pour mieux la rejeter hors du cercle des nations éclairées et donc justifier ainsi leur entreprise de colonisation de la Chine, qui a effectivement commencé donc dans la première moitié du XXe siècle et qui s'est terminée par une occupation totale donc du territoire chinois. Alors l'ironie tragique, toujours selon Pai, c'est que cette qualification de despotisme a été acceptée, a été avalée tout rond en quelque sorte, a accepté sans coup férir par les intellectuels chinois modernistes du mouvement du 4 mai 1919, pour qui il était vital de jeter en bloc dans la poubelle de l'histoire tout le passé de la Chine, passé donc despotique, pour pouvoir donc accéder à la modernité occidentale qui était donc pour eux la condition sine qua non de la survie de la nation chinoise. Donc, au début du XXe siècle, vous avez ces intellectuels chinois modernes qui ne sont plus les lettrés de l'ancienne Chine, qui pensent que, enfin, qui sont confrontés justement au risque de voir la Chine carrément rayée de la carte. Ça, c'est un fait, et qui ont pensé que la seule issue possible, le seul moyen de sauver la Chine, c'était justement d'embrasser la modernité qui ne pouvait être, selon eux, que occidentale. Et Pai Tongdong va jusqu'à écrire ceci, je le cite, « Le récit autoritaire chinois c'est-à-dire le récit selon lequel la Chine était despotique, était à l'origine un dénigrement malveillant de l'Orient par l'Occident afin de prouver la supériorité occidentale et de légitimer le colonialisme occidental. Et l'acceptation par les Chinois d'un tel récit était une forme d'auto-orientalisation et donc d'auto-dénigrement. Et ce qui est à la fois ironique et triste, c'est que ce récit du « vilain chinois », il dit ça entre guillemets, est toujours populaire dans la Chine contemporaine, y compris chez certains soi-disant libéraux. Alors, petit coup de griffe du professeur Pae à l'égard des libéraux qui l'accusent tout simplement d'entretenir cette auto-orientalisation et cet auto-dénigrement et de parler de ce qu'on a pu appeler à un moment donné le chao lou de zhongguoren, c'est-à-dire donc le vilain chinois. Alors, premier point, Pae souligne ici le caractère exogène et imposé de cette qualification de despotisme d'origine européenne et donc, selon lui, en conséquence, non adapté à la réalité historique chinoise. C'est pour ça qu'il considère que cette qualification est erronée. Donc, c'est la faute à Montesquieu, et Montesquieu a tort. Et deuxièmement, ce que Pae Tongdong reproche justement à cette notion de despotisme, c'est qu'elle est justement le résultat d'un transfert de l'extérieur, c'est-à-dire d'un processus de traduction. Alors, je vous renvoie ici aux travaux de plusieurs collègues qui ont organisé en mars 2021 un colloque sur, vous le voyez à gauche sur la diapositive, donc un colloque qui s'est tenu à Bordeaux sous la houlette de notre collègue Eddy Dufourmont, donc professeur de japonais à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc ce colloque intitulé « Montesquieu et l'Asie, traduction, circulation et usage de l'esprit des lois hors d'Europe occidentale ». Et ce colloque a été repris en partie pour alimenter donc un numéro spécial de la revue Lumière, au pluriel, édité également à Bordeaux, qui s'intitule, c'est le numéro 41 de l'année 2023, donc c'est tout récent, ce numéro spécial s'intitule « Montesquieu et l'Asie, de point la réception de l'esprit des lois ». Alors, c'est grâce à ces travaux que, en fait, nous nous rendons compte que, comme beaucoup d'auteurs européens importés en Asie au XIXe siècle, Montesquieu, qui a été l'un des premiers d'entre eux, a commencé par être présenté en japonais. Donc nous allons voir Montesquieu donc parler japonais. Alors c'est de cela que nous parle dans son article Eddy Dufourmont, article intitulé « Un moment de la circulation mondiale des Lumières, une première enquête sur les traductions et les usages de l'esprit des lois dans le Japon moderne naissant, 1868-1889 ». Alors, ces années correspondent donc au début de la fameuse ère Meiji, donc qui a véritablement révolutionné donc le mode politique du Japon et qui l'a placé sur la route de la modernisation et de l'occidentalisation. Alors, Édith Dufourmont commence par faire ressortir l'intérêt pour Montesquieu d'une société japonaise marquée par l'accès à Bumei, c'est-à-dire la civilisation. Bumei qui est donc la prononciation japonaise de Wenming, dont nous avons vu que c'est devenu le terme chinois pour la civilisation. Donc, encore un de ces termes inventés par les Japonais qui est passé donc comme une lettre à la poste en chinois. Cette société japonaise est à la fois marquée par l'accès à la civilisation et la lutte pour les droits politiques. Donc, on retrouve ici la thématique de la civilisation que nous avions vue précédemment, intimement liée à la quête de modernisation. Et Édith Dufourmont nous rappelle ceci, donc le Japon des années 1870-1880 est traversé par un intense mouvement de traduction de textes en langue européenne, en parallèle de transformations institutionnelles et sociales marquées par des troubles politiques. Durant cette période de découverte de notions complètement nouvelles, le nouveau régime de 1868, c'est-à-dire donc de cette ère Meiji, hein, qui veut dire justement gouvernement éclairé, hein, ou gouvernement par les Lumières, donc ce nouveau régime donne une nette préférence pour le droit dans le choix des traductions. De ce point de vue, il n'y a nul hasard dans l'intérêt marqué pour De l'esprit des lois. Cette œuvre de Montesquieu est, avec Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, le seul texte francophone traduit durant la période, et ce, plusieurs fois. Et donc, Édith Dufourmont remarque que Montesquieu est peut-être le philosophe européen qui a marqué le tout premier, le Japon moderne. En effet, le document qui établit le projet de gouvernement après le coup d'État de 1868, le mémoire sur le gouvernement, dont vous avez le titre en japonais, première ligne sur la diapositive, le Seitaisho, propose pour la première fois une séparation entre les trois pouvoirs, Sankenbunritsu. Alors, vous avez d'abord le pouvoir législatif, hein, le Rippo, hein, le pouvoir exécutif, Gyoho, et le pouvoir judiciaire, Shiho. Donc là, vous reconnaissez quelque chose de très familier pour nous, mais qui était évidemment tout nouveau dans le Japon de 1868. Et donc, vous voyez que cette séparation des pouvoirs distingués par Montesquieu donc, est véritablement fondateur dans ce Seitaisho qui a été décrit comme une sorte de préconstitution, hein, de l'État moderne japonais. Alors, dans le sillage justement de ce début de l'ère Meiji, vous avez des grands personnages, hein, toute une série de grands personnages qui sont à la fois des interprètes, des traducteurs et en même temps des personnalités qui ont exercé un rôle absolument déterminant dans la transition politique au Japon. Vous avez ici ce monsieur très respectable en grand costume, donc Kato Hiroyuki, hein, qui a vécu de 1836 à 1916 et qui nous dit ceci: le monde est un endroit très vaste et les États qui se sont formés dans le monde sont innombrables. Et pourtant, il n'y a pas plus de deux formes de gouvernement à considérer. Vous avez d'une part le Kunshuseiji, c'est-à-dire ce qu'on appelle la monarchie en Occident, et le Kansaiseiji, c'est-à-dire ce qu'on appelle la république en Occident. Et il ajoute, à propos de ce Kansai Seiji, qu'il comprend comme une, justement la, ce qu'on appelle la République en Occident, selon ce système, donc, il n'y a pas de souverain au-dessus du peuple de la nation, hein, et les officiers et ministres se consultent entre eux pour mener, gérer le gouvernement. Hein. Donc, ce qu'il comprend justement dans le régime républicain, c'est que il n'y a pas donc de souverain au-dessus du peuple. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement, en fait, c'est tout à fait intéressant de voir comment donc les Japonais ont compris ces catégories totalement nouvelles pour eux et ont essayé de traduire dans leur propre langue, hein, essentiellement empruntée du chinois d'ailleurs, comment ils ont traduit justement ces notions absolument inédites pour eux. Alors, un autre personnage absolument déterminant dans la vie intellectuelle et politique de l'époque Meiji et tout à fait aussi déterminant pour la réception de Montesquieu au Japon, c'est le fameux Fukuzawa Yukichi, hein, que vous voyez ici donc en tenue de samouraï traditionnelle. Il a vécu de 1835 à 1901. Alors, c'est un personnage tellement important qu'il figure sur les billets de banque japonais, hein, les billets de 10 000 yens. Ici, vous le voyez en costume occidental. Alors, dès 1866, hein, c'est-à-dire dès avant le début de l'ère Meiji, donc Fukuzawa distinguait déjà trois types de gouvernement, hein, et il le fait dans cet essai qui a beaucoup marqué les esprits, le Seiyo Jijo, hein, c'est-à-dire donc ce qui se passe en Occident, hein, les conditions réelles de ce qui se passe en Occident. Dans cet essai, il distingue donc trois formes de gouvernement qu'il appelle d'abord le Rikun, c'est-à-dire donc littéralement établir le prince, qui correspondrait à la notion européenne de monarchie. Ensuite, le Kizokugogi, c'est-à-dire donc ce qui serait en Europe l'aristocratie. Et enfin, le Kyowa Seiji, hein, c'est-à-dire donc ce que les Européens entendent par république. Donc là, vous voyez que nous, Fukuzawa adopte un vocabulaire légèrement différent, hein, de celui de Kato Hiroyuki. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que pour Fukuzawa, la notion de despotisme est dérivée, hein, de cette notion de rikun, c'est-à-dire de monarchie. Pour lui, le despote, c'est un monarque qui n'a plus de limites dans l'exercice de son pouvoir, puisque il est seul à régner, il règne sans partage. Donc cette dérivation du despotisme à partir de la monarchie, hein, c'est ce qui va justement faire la différence entre les différentes interprétations et les différentes traductions donc au Japon. Alors, ce qui est à noter, et je dois dire que je ne le savais pas, hein, j'ai découvert justement à l'occasion que cette notion de république, hein, de Kyowa, hein, donc en chinois Konghe, hein, donc actuellement la notion de république en chinois se dit Konghe, un pays, une république en tant que pays, c'est Konghe Kuo. Donc de façon tout à fait intéressante, est en réalité encore une fois une invention japonaise, qui est dû à un certain Mitsukuri Shogo, et qui a inventé ce terme de Kyowa Koku, c'est-à-dire donc de pays républicain, de république, pour traduire le mot néerlandais république. Et pour ce faire, en fait, il a repris un nom de règne, Konghe, c'est qui veut dire littéralement l'harmonie commune, un nom de règne d'un roi de la dynastie Zhou, Zhou Liwang, qui a régné donc au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour dire que en Chine, on a tendance à oublier justement cette médiation japonaise dans non seulement la traduction de toutes ces œuvres occidentales dans une langue asiatique, mais aussi en fait l'invention, tous les néologismes qu'ont créé donc les Japonais pour traduire des notions tout à fait nouvelles. Alors, pour revenir donc à Fukuzawa, c'est en 1875, l'année même de la parution des traductions de l'Esprit des Lois, que Fukuzawa popularise au Japon le thème de la civilisation, Bunmei, donc, dans cet autre essai qui a eu aussi énormément de succès, le Bunmeiron no Gairaku, les grandes lignes d'une théorie de la civilisation. Donc vous voyez la page de couverture ici. Donc Fukuzawa est non seulement donc un passeur, un traducteur, mais c'est aussi l'un des fondateurs de la société de l'an 6 de Meiji, la Meirokusha, qui rassemble dès 1874 les premiers intellectuels formés à l'européenne. Alors tous ces intellectuels regroupés dans cette association, cette société, se font les avocats des réformes radicales de la société japonaise au nom de la civilisation. Et c'est intéressant pour nous de savoir que Fukuzawa fonde ses thèses d'abord sur l'ouvrage de François Guizot, l'histoire générale de la civilisation en Europe, ainsi que sur The History of Civilization in England de Henry Thomas Buckle, donc l'histoire de la civilisation en Angleterre, dont les propos sont probablement inspirés par l'esprit des lois, mais bizarrement Fukuzawa ne cite jamais directement le nom de Montesquieu. Alors un autre personnage justement déterminant pour la présentation de Montesquieu au Japon et en Asie plus généralement, c'est ce monsieur qui est une personnalité très attachante, qui est mort, comme vous voyez, de façon assez prématurée, donc qui est né en 1847, mort en 1901, et qui s'appelle donc Nakae Chōmin, et qui est donc d'abord connu pour son rôle central dans le transfert des idées de Jean-Jacques Rousseau et du républicanisme français. Et c'est de nouveau donc à Édith Dufourmont et à Jacques Joly que nous devons cette retraduction donc en français des écrits sur Rousseau et les droits du peuple par Nakae Chōmin. Donc nous avons ici un exercice assez particulier qui a consisté à restituer en français donc ce que Nakae Chōmin a traduit de Rousseau en chinois classique. Et c'est pour cette raison que nous avons inclus ce volume dans notre collection bleue, que vous connaissez maintenant, aux belles lettres, les budets chinois. Et comme j'y insiste très, très souvent, cette série ne couvre pas uniquement donc, des ouvrages chinois en chinois classique, mais également tout ce qui a été écrit en chinois classique par des lettrés ou intellectuels japonais, coréens et on attend encore vietnamiens. Ce que Nakai Chomin a fait pour Rousseau, il l'a fait également pour Montesquieu, puisque la présence de Montesquieu dans la formation intellectuelle de Chomin est tout à fait attestée, puisque Chomin a fait un séjour en France, et le mentor de Chomin à Paris, qui s'appelait Émile Acola, inclut l'esprit des lois dans sa bibliographie choisie de l'étudiant en droit. Et à son retour au Japon, Chomin a ouvert une école des études françaises, le Futsugaku Juku, et ses premiers disciples donc ont eu l'occasion d'étudier dans leur cursus l'ouvrage de Montesquieu, la considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, et ce à quoi c'est venu s'ajouter de l'esprit des lois. Donc là, vous avez véritablement dans le cursus d'une école très francophile et francisante, donc au Japon, ces ouvrages de Montesquieu qui figurent en bonne place dans le cursus. Alors, en 1882, dans l'un de ses articles, Chomin fait de Mencius et de Confucius, donc nos philosophes chinois, les pendants asiatiques de Montesquieu et Rousseau, qu'il décrit tous comme des modèles incompris dans leur temps. Ça, c'est tout à fait intéressant. Vous avez cette appropriation donc de Montesquieu et Rousseau comme un petit peu les Confucius et Mencius de l'Asie. Alors, dans les dialogues politiques entre trois ivrognes, alors c'est le titre d'un roman, un politique de Chomin qui lui a valu un très grand succès en 1887, l'un des personnages fait l'éloge de Montesquieu en ces termes. Et là, je cite donc la traduction par toujours Édith Dufourmont et Christine Lévy de ces dialogues politiques entre trois ivrognes, paru aux éditions du CNRS en 2008. Donc l'un des personnages dit ceci: le constitutionnalisme se trouve à mi-chemin du despotisme monarchique et de la démocratie. Il ressemble au despotisme monarchique car le prestige sacré du souverain permet de réprimer les ambitions excessives, mais il garantit la liberté au peuple comme dans la démocratie. C'est un système qui associe les avantages des deux systèmes et qui ne présente aucun de leurs inconvénients. Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, John Stuart Mill, dans son livre Representative Government, ont soutenu tous deux que le système politique devait être adapté au niveau de développement atteint par le peuple. Donc ici, nous avons donc un intellectuel japonais qui défend l'idée donc que le Japon de son époque, nous sommes à la toute fin du 19e siècle, a atteint justement ce niveau de développement pour accueillir donc cette transition politique. Alors évidemment, la même chose ne peut pas forcément être dite de la Chine. Et le même personnage ajoute ceci, citation, donc certains occidentaux affirme que les gens des pays libres sont aimables et ne cherchent pas querelle aux autres, tandis que les habitants des pays despotiques sont orgueilleux et se montrent agressifs. C'est la vérité. Nous pouvons constater que le système de la liberté est bénéfique non seulement sur le plan matériel, tant pour la vie quotidienne du peuple que pour ses activités, mais aussi par l'anoblissement des cœurs. C'est indéniable. Ah, chère liberté, si je te rejetais, quelle cause pourrais-je embrasser à ta place ? Alors, vous avez ici un ode à la liberté, qui, comme les carottes, rend aimable, hein, apparemment. Donc, c'est quelque chose qui est bon à la fois donc, pour la prospérité et l'harmonie du pays, mais aussi bon pour la morale du peuple, l'anoblissement des cœurs. Alors, c'est ici que une autre collègue, celle-là de l'Université Paris-Cité, prend le relais dans ce numéro de la revue Lumière, consacré à la réception de l'esprit des lois en Asie. Il s'agit donc de la professeure Céline Wang, de son nom chinois Wang Xiaoling, qui enseigne donc à l'université Paris-Cité et qui est connue pour ses travaux de la réception de Rousseau en Chine. Et donc, elle a commis également un article dans ce même numéro de la revue Lumière qu'elle a intitulé « Traduction et diffusion de l'esprit des lois en Chine au début du XXe siècle, l'apport de Montesquieu au républicanisme naissant ». Alors, elle commence par, elle aussi, constater que l'esprit des lois de Montesquieu est l'une des toutes premières œuvres occidentales à avoir été introduite en Chine, hein, dans la période entre 1856 et 1911, période qui a donc précédé immédiatement l'effondrement définitif de la dernière dynastie impériale, la dynastie Manchu, des Qing en 1911. Et Céline Wang distingue dans ce processus de réception trois périodes. Donc, durant la première, de 1864 à 1898, l'esprit des lois est brièvement mentionné dans des ouvrages généraux qui portent sur l'histoire ou les lois mondiales. Alors, il s'agit ici de la période qui sépare en fait le début de l'ère Meiji au Japon, hein, 1868, et 1898, c'est-à-dire le tout premier mouvement de réforme du système politique chinois mené par donc les réformistes Kang Youwei et Liang Qichao, dont nous parlerons tout de suite plus tard. Alors, donc, il y a une première période, ensuite une seconde qui s'étend de 1899 à 1904, qui est caractérisée par la parution des premières traductions partielles de l'esprit des lois qui passent par le Japon et qui passent ensuite en Chine, et qui permet donc de diffuser les idées principales de Montesquieu. Et ensuite, il y a une troisième période entre 1905 et 1911, c'est-à-dire donc l'effondrement de la dynastie Qing et l'établissement de la première république chinoise avec Sun Yat-sen. Donc cette troisième période voit l'apparition d'une version chinoise quasi complète et l'utilisation tant par les réformistes que par les révolutionnaires chinois des idées de Montesquieu pour étayer leurs positions politiques respectives. Et il faudra attendre 1961 pour que paraisse la première version chinoise intégrale de l'esprit des lois que vous voyez tout en bas de la diapositive. La diapositive n'est pas forcément très, très, très claire, mais vous voyez un petit peu justement le processus de traduction par lequel on est passé pour aboutir en 1961, c'est-à-dire une date vraiment tardive, à enfin une traduction complète. Dans la deuxième période distinguée par Céline Wang, vous avez de nouveau, donc, on pourrait dire, un passeur japonais du nom de Okamoto Kansuke, que vous voyez, dont vous voyez le nom ici à l'image, qui a vécu entre 1839 et 1904 et qui a rédigé donc un Bankokushiki, c'est-à-dire une histoire du monde. Alors, le monde, il utilise en fait une expression chinoise qui veut dire les 10 000 pays et qui désigne donc la multiplicité donc, des pays dans le monde. D'abord publié en 1879 et ensuite immédiatement repris en chinois à Shanghai en 1880. Et Okamoto donc fait mention des philosophes français des Lumières dans ce texte donc qui est rendu en chinois de cette façon que vous avez à l'image et que je traduis donc et qui fait d'abord référence donc à Louis XIV. Donc après que Louis XIV eut régné avec autorité et en agissant en despote. Donc c'est comme ça que Céline Wang traduit donc l'expression en rouge qu'on lirait en chinois Tun Zhu Zheng, c'est-à-dire donc le régime politique par le prince. Alors d'autres princes se sont mis à l'imiter et évidemment le peuple en a grandement souffert. Et c'est alors qu'apparurent des philosophes éminents. Alors l'expression en chinois c'est en fait des ta ru, c'est-à-dire des grands lettrés confucéens, tels que Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Alors, ces grands lettrés confucéens donc, ont rédigé des livres qui s'attaquent justement au gouvernement par la force et qui prônent, expression donc soulignée en rouge, zizhu zhishuo, c'est-à-dire donc la théorie du gouvernement par soi-même, de l'auto-gouvernement, afin de contenir l'autorité monarchique et promouvoir ainsi le Minquan, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, ce que vous avez aussi en rouge. Et leurs ouvrages suscitèrent de l'enthousiasme chez les lecteurs et firent alors naître l'idée d'abolir l'ancien régime. Donc là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que notre auteur japonais a bien compris que, en fait, les idées de Montesquieu et des philosophes français des Lumières s'attaquent justement en réalité au mode de gouvernement de Louis XIV qui était qualifié justement de monarchie absolue, c'est-à-dire au fond de monarchie sans frein, sans limitation, et c'est dans ces termes-là que Japonais ont commencé par comprendre ce qu'était le despotisme, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, donc une monarchie sans aucune limitation. Alors, c'est ainsi que la première traduction en chinois de l'esprit des lois a été en réalité établie à partir d'une version japonaise que vous avez ici et qui est due à c'est un chinois de Nagasaki mais qui porte un nom en japonais, Ga Noriyuki. Alors c'est là que vous remarquerez peut-être que la prononciation chinoise, si on prononce à la chinoise, ce serait He Li Zhi, n'a absolument rien à voir avec la prononciation japonaise, Ga Noriyuki, bon, mais pourtant c'est le même nom. C'est quelqu'un qui a vécu entre 1840 et 1923 et qui est donc l'auteur de ce premier rendu de l'esprit des lois qu'il a traduit sous le titre japonais de Bampo Seiri, c'est-à-dire la quintessence des lois. Là aussi, notre auteur japonais fait référence à la notion de 10 000, c'est la quintessence des 10 000 lois. 10 000 voulant dire donc en chinois l'infinie multiplicité. Et donc ce premier rendu de l'œuvre de Montesquieu, qui n'est pas une traduction intégrale, est elle-même fondée sur la toute première traduction anglaise de l'Esprit des lois par Thomas Nugent en 1750, que vous avez ici, The Spirit of Laws. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Ga Noriyuki, notre traducteur japonais, retient la traduction de la notion de despotisme, non pas en faisant référence justement à la monarchie, mais par un terme spécifique qui est en chinois, donc zhuanzhi. C'est le terme chinois qui a été retenu par la suite pour désigner donc le despotisme. Zhuanzhi qui veut dire un système de gouvernement où le pouvoir est monopolisé entre les mains d'un seul. Donc c'est ainsi que on a retenu cette traduction pour le despotisme. Alors en Chine même, et nous abordons donc la troisième période distinguée par Céline Wang, l'une des personnalités marquantes pour justement la présentation de Montesquieu en Chine, c'est ce personnage que vous avez à droite sur la diapositive, Liang Qichao, qui a vécu de 1854 à 1921, qui est présenté ici à côté de son maître, Kang Youwei, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a vécu de 1858 à 1927, vous les avez ici sur une photo un peu plus nette. Vous voyez ici Kang Youwei toujours en habit traditionnel et attendez, j'ai l'impression que ici les dates de Liang Qichao sont erronées. C'est en fait 1873 à 1929. Comme quoi il faut toujours vérifier ses sources. Donc ici vous avez à gauche donc Kang Youwei en costume traditionnel, donc de lettré chinois, et à droite Liang Qichao après qu'il a adopté donc le costume occidental, à l'imitation donc de ses homologues japonais. Alors ces deux personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont véritablement à la tête du mouvement de réforme de 1898, qui intervient donc 30 ans après le début de l'ère Meiji au Japon. Donc on voit ici la Chine avec son métro de retard, si j'ose dire, qui réagit 30 ans plus tard, notamment justement avec la montée en puissance du Japon, précisément. Le mouvement de réforme de 1898 a été véritablement appelé par la défaite de la Chine face aux troupes japonaises en 1895, et c'est là que justement ces réformistes chinois se sont dit il faut faire quelque chose parce que sinon donc nous disparaissons de la carte. Et donc malheureusement pour la Chine, donc ce mouvement de réforme s'est soldé par un fiasco, notamment du fait de l'intervention de l'impératrice douairière Cixi, la fameuse Cixi, et donc qui a chassé les leaders de ce mouvement, dont beaucoup se sont retrouvés au Japon, en particulier Liang Qichao, qui a découvert au Japon toutes les idées nouvelles importées d'Europe, avec un important catalogue de traductions japonais de ses œuvres occidentales et qui a donc commencé à procéder à justement un transfert du Japon vers la Chine, donc de ces mêmes œuvres. Alors, Liang Qichao a créé à cette fin plusieurs périodiques dont les plus influents ont été le Qin Yi Bao, c'est-à-dire le journal des discussions Qing, c'est-à-dire pur, entre 1898 et 1901, et le Ximin Congbao, c'est-à-dire le magazine du Nouveau Peuple entre 1902 et 1907. Alors, dans ces deux périodiques, Liang Qichao s'applique à faire connaître les penseurs occidentaux les plus marquants par une série d'articles qui a été inaugurée précisément avec Montesquieu et Rousseau. Alors, l'un de ces articles qu'il a intitulé donc Fa Li Xue Da Jia, Meng De Si Jiu Zhe Xue Shuo, c'est-à-dire donc la doctrine de Montesquieu, éminent théoricien des lois, comporte une introduction, une présentation des idées principales de l'esprit des lois et une conclusion qui souligne l'apport de Montesquieu à d'importantes réformes politiques et législatives en France et ailleurs. Et alors, même au Japon, et ça nous rappelle une situation actuelle, Liang Qichao est obligé de publier sous pseudonyme, donc il ne signe pas sous son nom, mais il signe sous le pseudonyme Zhongguo Zhe Xinmin, c'est-à-dire donc Nouveau Peuple Chinois. On s'aperçoit que justement dans cet article sur Montesquieu, en fait, il s'agit d'une traduction remaniée de la section consacrée à la philosophie sociale de Montesquieu dans un ouvrage français qui est l'histoire de la philosophie d'Alfred Fouillé, 1838-1912, professeur de philosophie à la Sorbonne. Donc, notre Alfred Fouillé a publié en 1875 à la librairie Delagrave cette histoire de la philosophie qui s'est trouvée traduite en japonais par notre cher Nakae Chōmin en 1886. Vous voyez donc la réactivité donc des Japonais qui traduisent en l'espace de 10 ans des ouvrages parus en Europe. Et on peut supposer que Liang Qichao, qui ne lisait pas le français, donc a dû comprendre le texte de Montesquieu à partir donc de la traduction en japonais par Chōmin du livre de Monsieur Fouillé. Donc là, vous voyez comment nous circulons entre les langues. Et ça, véritablement, c'est le propre du Japon, et notamment du Japon moderne, d'avoir été véritablement un centre, une plateforme de traduction. Le Japon qui, j'ouvre une toute petite parenthèse, qui se trouve en fait un peu dans la même situation, alors mutatis mutandis évidemment, que la Rome antique vis-à-vis de la Grèce. C'est-à-dire donc les Romains se sont d'emblée trouvés dans une situation de diglossie, puisque en fait tout Romain instruit se devait évidemment de connaître le grec. Donc vous avez le cas évidemment très célèbre de Cicéron, donc qui était aussi, enfin il maniait aussi couramment le grec que le latin, et de la même façon les lettrés japonais se sont retrouvés d'emblée aussi dans cette situation de diglossie, puisque l'écriture japonaise a été empruntée en fait aux Chinois, hein, et donc les Japonais ont utilisé cette écriture et cette langue classique chinoise pour s'exprimer, tout en ayant eux-mêmes donc leur propre langue japonaise. Alors, vous avez ici la traduction en chinois, hein, des notions principales de l'esprit des lois par Liang Qichao, avec les dates exactes cette fois-ci, 1873-1929. Vous avez donc la notion de loi qui est traduite par Fa Lu. Fa, c'est donc en fait c'est la notion de loi en général, hein, qui peut s'employer au singulier comme au pluriel. Et les Lu sont en fait plus proches en fait de la notion de code, hein, c'est-à-dire donc le détail des lois en application. Ensuite, vous avez les trois espèces de gouvernement, hein, distinguées par Montesquieu, donc les Sanda Zhengti Lun, c'est-à-dire donc la théorie des trois grands systèmes politiques. Alors, ces trois espèces de gouvernement, vous avez donc en premier lieu le despotisme, avec la reprise de l'expression de Okamoto, donc Zhuanzhi Zhengti, hein, donc le régime politique avec une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul, la monarchie, le Li Jun Zhengti, hein. Alors là, vous reconnaissez peut-être l'expression japonaise, hein, qui désignait la monarchie, le Rikun japonais, le Li Jun chinois, hein, donc l'établissement du pouvoir du prince, et ensuite la république, Konghe Zhengti, hein, c'est-à-dire donc là aussi ce néologisme japonais, donc inspiré d'un nom de règne de la dynastie antique des Zhou. Et ensuite, vous avez également, notion de Montesquieu par excellence, la séparation des trois pouvoirs, hein, qui reprend à peu près mot à mot donc justement les interprétations japonaises, les San Quan Fen Li Shuo, hein, c'est-à-dire donc la théorie des San Quan, c'est-à-dire des trois pouvoirs, Fen Li, c'est-à-dire qui sont séparés, la séparation des trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir législatif, hein, le Li Fa Quan, hein, c'est-à-dire le pouvoir d'établir les lois. Le pouvoir exécutif, Xing Fa Quan, c'est-à-dire donc le pouvoir d'appliquer, de mettre en application les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire, le Si Fa Quan. Alors, vous reconnaîtrez ici, en prononciation chinoise, exactement la même terminologie que nous avions vue chez nos traducteurs japonais. Alors, je vais devoir m'arrêter ici. Nous reprenons ceci la prochaine fois, mais il me semblait justement nécessaire de nous arrêter assez longuement justement sur cette médiation japonaise qui est assez, comment dire, maltraitée par notre Bai Tongtong, qui justement accuse les Japonais justement d'avoir voulu imposer tout cela à la Chine pour des raisons colonialistes. Je trouve que c'est un peu vite dit, hein. Je pense que là le Japon a joué véritablement un rôle déterminant dans la transition politique en Chine vers la modernité. Donc c'était absolument nécessaire de nous arrêter là-dessus. Nous continuons la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie, évidemment. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.